Le livre des règlements, une présentation de 1-855-MÈTRE.com. Les spécialistes en matière de CNESST et SAAQ.
1-855-MÈTRE. MAITRES.
Tout d'abord, c'est le livre des règlements avec l'avocate chez Desroches-Mongeon Avocats. Sophie Mongeon, comment ça va, Maître Sophie?
Ça va super bien, vous autres?
Ça va bien. Ça va bien.
Je suis content que tu reviens sur une nouvelle qu'on a traitée cette semaine et que Evelyne, d'ailleurs, a fait une entrevue là-dessus hier à son émission. Charles Philibert Thibouteau, qui ne recevra pas le brevet d'athlétisme Canada, lui permettant d'avoir une somme de 30 000 $ de financement.
Oui, effectivement, c'est un jugement qui a été rendu. Ben, c'est pas un jugement qui a été rendu, c'est plutôt une procédure juridique que ce matin, je veux vous expliquer parce que c'est extrêmement intéressant.
Parfait.
Parce que ça fait un peu référence à ce que je vous ai expliqué à quelques occasions, qui est le tribunal arbitral du sport, qui lui est en Europe et il va trancher des litiges, surtout internationaux. On a parlé de dopage dans d'autres organisations sportives, mais au Québec, au Canada, on a un processus de contestation interne que je veux vous expliquer ce matin.
Parfait. On t'écoute.
Parfait. Donc, on commence que Philibert Thibouteau, lui, il a une trentaine d'années. Il a 30 ans, exactement, 30-31. Et lui, il course pour Athlétisme Canada depuis longtemps. Là, on arrive au stade où c'est le temps des financements. On est à l'automne, donc préparé pour les compétitions de l'année prochaine. Et lui, on se rend compte qu'il n'aura pas le fameux brevet. Nous, en droit, là, un brevet, là, c'est comme une propriété industrielle là, qui te permet d'utiliser exclusivement l'exploitation d'un bien. Comme quand tu fais une découverte sur une trombone qui fonctionne fantastique, tu fais un brevet dessus pour que tu sois le seul à pouvoir l'utiliser.
J'ai breveté le Gilbert Chorel, moi.
Oui, c'est exactement. C'est une super bonne idée. Puis c'est un bon exemple d'ailleurs. Donc, ça serait toi qui aurais le brevet d'utilisation de ce dictionnaire.
J'aurais le brevet de tout ce que Gilbert dit. Ça, ce serait extraordinaire. Ouais, mais, une cote à chaque fois, c'est bon. Ça.
Ben, c'est ça. Gilbert, là, avant, là, s'il fait ça, viens me voir. On va te signer
une
pourcentage là-dessus.
On va prendre un avocat.
Alors, revenons à Charles. Comment ça s'applique dans son cas?
Bon, ben là, dans le fond, là, les brevets, c'est un genre de permis qui te permet d'obtenir du financement, ce qu'il n'a pas eu. Et qu'est-ce que lui invoque? Il dit, premièrement, il dit, tu sais, l'âge, là, autre temps, autre mœurs, je pense qu'avant, dans le sport, il faut absolument que tu sois jeune. Mais maintenant, les plus vieux ont une capacité physique qui perdure le temps. Tu sais, on voit des hommes. Regarde Gilbert.
Ben, c'est ça. Ça, c'est le meilleur exemple. Là. Moi, je suis un gros jeune, puis lui, c'est un vieux, mais tabarnouche.
Arrêtez,
je pourrais juste le dépasser aux 2 mètres. Aux 100 mètres, il me bat à plate couture.
Donc, c'est un peu ce qu'il invoque, lui, Philibert. C'est qu'il dit, écoute-moi bien, moi, je n'ai pas eu, je n'aurai pas d'aide du programme d'aide aux athlètes de Sport Canada, alors que 5 autres personnes ont été prises qui sont beaucoup moins rapides que moi.
OK. Pourquoi?
Il dit, voilà ce qu'il allègue. Il dit, aucun des athlètes n'a été qualifié pour les championnats du monde. Puis moi, j'ai couru 3.34. Mm-hmm. Alors que le plus proche a couru 3 minutes 35 et les autres 3 minutes 37. Fait qu'il dit, pourquoi moi je n'ai pas le support alors que mes statistiques et mes chiffres sont meilleurs que ceux qui ont été retenus?
Bien, il y a une bonne cause devant lui, là. Ben oui, il va gagner.
Ben non, il a perdu. Okay, pourquoi? Bon. Voici ce qui est allégué selon les représentants d'Athlétisme Canada. Ce qu'ils vont dire, c'est que lui, il a appliqué pour la catégorie classe mondiale. Donc, la classe mondiale, c'est les athlètes qui ont une capacité réaliste de viser un top 8 dans 4 à 2 ans. Donc, en d'autres termes, là, c'est pour les Jeux olympiques de Paris en 2024.
OK.
OK? Donc, il regarde plus le potentiel à long terme que les statistiques actuelles. Et lui avait appliqué dans une catégorie qui était, si je ne me trompe pas, classe mondiale, alors que les 5 autres qui ont été retenus, c'est dans la catégorie confirmation de talent et classe internationale. Puis, parce que Philibert avait déjà eu des bourses dans ces deux catégories-là, il ne pouvait pas réappliquer.
Parce qu'il est considéré comme une élite là, comparativement aux autres. Là, lui, il n'a pas le droit aux 30 000 $.
Ben, parce qu'il l'a déjà eu dans des catégories inférieures, puis là, lui, il essayait dans la classe mondiale, malgré qu'il ait les meilleurs chiffres de toutes les gens qui ont été retenus. Je pense qu'il y a beaucoup de subjectivité qui a été prise en compte. Alors, qu'est-ce que lui pouvait faire pour revendiquer son point? Il pouvait contester dans les 15 jours de la décision et déposer un appel au comité de révision. Ça, c'est un peu un comité à l'interne. Et là, il y a eu une décision. Là, il s'est dépêché en 15 jours à produire un gros document qui démontrait les statistiques, etc. Puis là, le commissaire est venu dire, ben écoute, tu peux pas te comparer aux autres. C'est une décision qui est individuelle, etc. Et là, ce que je vous dis, c'est de noter le bien, parce que plus tard, vous allez comprendre mon analogie. OK?
Parfait. Oui.
Donc, lui, à ce moment-là, il avait l'option de le porter en appel dans les 30 jours à un organisme que je vous explique, qui est le Centre de règlement des différends sportifs du Canada. Donc, ça, c'est un arbitre qui vient trancher entre l'organisation sportive et l'athlète. Fait qu'il y a un processus quand même de contestation qui est possible. Mais s'il fait ça, il faut qu'il démontre que le commissaire qui a rendu la première décision a fait une erreur.
OK. Okay? Donc, ce qui est possible, ben oui.
Mais qui a fait une erreur, mais c'est très subjectif aussi.
Oui.
Dans le fond, qui a fait une erreur dans l'application du règlement. Hey, fait que là, ça, c'est une long shot. Puis là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit tout simplement, moi, je n'irai pas devant ce comité-là. C'est beaucoup de temps, c'est 30 jours, et les chances que ça change sont pas bien, bien bonnes.
Ouais, ouais.
Mais ce qui ça vient mettre en lumière, c'est est-ce qu'il y a de l'âgisme, un, dans le sport, puis deux, heureusement pour lui qu'il y a des commandites personnelles.
Ben, on s'entend, puis il est aguerri, ça fait plusieurs années, justement, qu'il fait son chemin, et tu peux pas toujours dépendre des organismes, il faut aussi que t'aies trouvé du support, et il a des contacts, mais malgré tout, t'as raison, c'est pas aux organismes de décider que l'athlète est fini, là. C'est à l'athlète de décider de prendre sa retraite aussi, puis quand les résultats en plus sont là, ben, il faut que le support suive jusqu'à ce que les résultats soient plus là au moins, là.
Mais tu sais, souvent, quand je vous dis que les règles, des fois, sont pas tout le temps logiques, puis on prend des décisions basées sur des vieilles procédures depuis belle lurette, puis que parfois, justement, c'est des exemples comme ça où la loi, les règlements, les directives, les organisations doivent s'adapter à leur clientèle. Dans le temps, là, c'était rien que des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes sont plus vieux qu'ils étaient, puis là, parce que, effectivement, on regarde un potentiel à long terme basé sur, justement, la performance possible, probable, bien, il y a un athlète de grande qualité qui est mis de côté. Les vétérans, là, sont très, très importants, même dans une chambre d'hockey. Est-ce que les vétérans sont essentiels pour les jeunes?
Ben absolument. Absolument. Essentiel.
On voit bien, il manque des gros, là. Ben, c'est ça, Canadien, là, ça va pas bien. En passant,
je les conseille, puis c'est ça. Ben oui,
Charles Philibert Thibouteau était l'invité d'Évelyne Audet hier à la Nouvelle Garde au 99 Sports et l'entrevue est maintenant disponible au 99sport.ca. Elle est là. Présentement, vous pouvez cliquer dessus, l'écouter, la partager aujourd'hui. Il ne sera pas soutenu par Athlétisme Canada, mais il va continuer au moins de courir. Bravo à Charles.
Oui. Donc, est-ce que j'ai encore du temps, LP?
Oui, ben, je l'ai conclure avec... Tu avais un autre sujet. Tu voulais revenir sur une décision qui touchait Natation Canada?
Ben justement, John McKay, lui, avant les Jeux olympiques, il avait été mis de côté de Swimming Natation Canada parce que les règles de critères de sélection ont été changées normalement de ce qu'ils étaient avant la pandémie. Donc, lui, il a été mis de côté alors qu'il a considéré que c'était injuste. Alors, lui, il est allé en appel au Centre de règlement des différends sportifs du Canada et il a gagné. Dans le fond, ce qu'il disait, c'est qu'il y avait un imbroglio en ce qui concerne la deuxième place de qualification pour le marathon de 10 km à la nage. Qui a été retenu à sa place? C'était Eric Edlin. Fait que Mickey, il dit, écoute, moi, je pense que c'est pas juste, je conteste, puis il dit, je vous donne l'opportunité de soit infirmer la décision, ou bien, il dit, je suis prête à faire une épreuve one-on-one, tête-à-tête avec Edlin, dans un marathon de 10 km, pour voir qui est le meilleur qui gagne. Ben finalement, l'arbitre est venu dire, moi, je constate que les critères de sélection n'étaient pas clairs, ils étaient nébuleux, ça a fait en sorte que la décision est viciée, je retourne le dossier à Swimming Natation Canada pour qu'ils revoient leurs principes de sélection. Mmh. Puis finalement, ce qu'on sait, c'est qu'il est allé aux Jeux olympiques, mais je dois avouer, j'ai pas trouvé ses performances, comment il a fini finalement aux Jeux olympiques, McKay.
OK.
Alors, j'aurais aimé savoir ça aurait été pertinent, mais clairement, il a sûrement pas obtenu un podium, sinon je l'aurais clairement trouvé.
Non, ça c'est clair. Merci beaucoup, Sophie. Est-ce que tu as un cousin ou quelqu'un dans la parenté qui s'appelle Yves et qui demeure à Vaudreuil?
Ça se peut, là, peut-être un cousin germain.
Parce que j'ai reçu le texto ici, j'ai écouté le podcast de Maître Mongeon, c'est super intéressant. Voilà, donc ça c'est Yves de Vaudreuil qui nous écrit ça. Est-ce que t'as un Giancarlo qui t'écoute, qui vient de Saint-Léonard d'Aston? Parce que lui, il nous écrit, elle est vraiment intéressante, Maître Sophie.
Excellent. Carlo.
Oui, oui, c'est ça.
C'est la légende d'Aston.
On reçoit beaucoup d'amour par texto.
Merci. Je dois avouer que de ce temps-ci, là, en plus, mon podcast, maintenant, il tombe en ligne sur les plateformes audio. Donc, Google Play, Spotify, Balado Québec, on passe à une autre étape. C'est tellement apprécié. J'apprécie l'amour que vous me donnez. Ça me donne du gaz pour continuer. Et cette semaine, jeudi, à 19h30, là, je comprends là, que je suis en contre les Canadiens. Là, je ne gagnerai pas. Mais il est en reprise
sur
YouTube.
Balado, on écoute ça quand on veut. Là. Ben oui.
Ben, c'est ça. Là, cette semaine, on parle c'est la fin des programmes PCRE, Assurance emploi.
Enfin.
Les gens là, qui ont eu des assouplissements puis ils ont eu droit. Mais ben, là, c'est terminé. Là. On fait quoi maintenant? Fait que je reçois Kim Bouchard du Mouvement Action Chômage.
Ben, on va travailler.
C'est un OSBL qui va tout nous expliquer ça.
Ils ont besoin de main-d'œuvre partout. Là. On peut pas avoir de Tim Horton avant d'entrer au bureau le matin. Là. C'est le temps de les rouvrir la nuit. Là.
Ouais.
Ça prend des employés dans les restos. Là.
Oui, mais toutefois, il faut que je vous explique. Après ça, j'ai un citoyen qui vient raconter son histoire. Lui, il a 60 ans. Là. La PCRE, là, ça s'appliquait justement pour des personnes comme lui. Puis, il vit un calvaire juridique. Là. C'est épouvantable. Je raconte ça jeudi, en plus.
OK. Merci beaucoup, Maître Monjoint, et bonne semaine.
Bonne semaine.
Bye, Sophie.
Bye.
Bye.